Bien, bonsoir à chacune et à chacun pour cette première rencontre philosophie et théologie de cette année. Grand merci à Olivier Abel parce qu'en fait on abuse un petit peu, c'est la deuxième fois en quelques semaines qu'il vient. Assez récemment, il y a une quinzaine de jours, pour un débat avec Régis Debray qui bat des records d'audience sur YouTube. Merci.
Ah, ça c'est Debray. Hein,
je ne sais pas. Je ne crois pas. Pas seulement. Et puis aujourd'hui, donc, ça inaugure un nouveau programme philosophie et théologie qui a été concocté en fait par Denis Guénoun, qui est caché là-bas, Philippe Gaudin, qui est caché aussi à côté de Guénoun, et puis Olivier Abel. Donc ils se sont mis à trois pour nous concocter ce joli programme que vous avez, ou pas, mais qui est sur la table à la sortie, et à l'entrée aussi, d'ailleurs, ça dépend comment on voit les choses. Mais il y a un programme avec une fois par mois la rencontre de la religion d'un philosophe ou la philosophie d'un théologien. Alors aujourd'hui, j'allais dire ça commence bien ou ça commence compliqué, parce que Pierre Bayle, ou Pierre Bell, comme on dit à Paris, je ne sais pas si on est dans le Midi ou si on est dans le Nord, en tout cas ce monsieur fort sympathique au demeurant, il est à la fois philosophe et théologien. Pour nous, il est un peu théologien sur les bords, c'est un chrétien protestant, très protestantisé. Pour bien des philosophes, c'est un athée, il est connu comme philosophe début des Lumières, et donc forcément philosophe athée. Donc il est entre les deux, entre la philosophie et la théologie. Donc merci d'avoir proposé ce sujet. Alors c'est vrai que, comme tu viens d'écrire un petit livre qui a été publié il y a 2007-11, il y a marqué, donc c'est quand même 2017-11.
Non, 11, 2016, non,
ouais, c'est marqué 2017-11. Non, c'est peut-être 2.
Ah non, oui, mais 2 février peut-être.
Février peut-être. Ouais, c'est... Février. Donc vous l'avez à la sortie, et donc c'est vrai que c'est un philosophe, c'est un théologien, c'est un homme qui a vraiment apporte quelque chose. Et donc merci Olivier de nous proposer ce sujet. Et bienvenue à vous tous. Alors c'est vrai que, comme souvent, notre conférencier parle trois quarts d'heure, une heure, et ça laisse le temps de débat entre nous. Donc vous pouvez déjà préparer vos questions.
Et on termine à 9h30.
Et on termine à 9h30 précise, parce qu'il y a des gens qui en sont un peu loin, et donc pour pas trahir la confiance des gens, on s'engage à terminer à 9h30.
Tu me signales quand je dépasse les trois quarts d'heure ou le...
D'accord.
Comme si, hein, pardon.
Ok, c'est ma faute.
Bien, je suis très heureux d'être dans cette belle salle ce soir avec vous. C'est un endroit pour lequel j'ai beaucoup d'affection. Et merci beaucoup à Denis Guénoun, Philippe Godin, mais aussi à toi, Marc, parce que en fait, tu fais partie, on peut te mettre quand même parmi les organisateurs de la chose. Tu as été quand même très cheville ouvrière de ce projet.
C'est Soyoun qui a inventé cette idée.
Oui,
en fait.
Je sais bien. Et on attend d'ailleurs, si j'ai bien compris, un livre peut-être qui va sortir d'un cycle dont ce n'est que le prolongement. Donc ça, je m'en réjouis beaucoup. Et c'est vrai que ça manque. Ça manque. On est dans un pays qui sépare tellement la philosophie et la religion, ou la philosophie et la théologie, que des lieux où de temps en temps on peut croiser un peu les choses, les regards, les disciplines, etc., c'est des lieux extrêmement précieux, et des êtres capables de faire ce travail, je dirais, de va-et-vient entre les disciplines, je crois que c'est aujourd'hui, c'est extrêmement, extrêmement important. Donc merci à eux, merci à toi. Donc Bayle, voilà. Moi, Bayle, c'est un auteur que je prononce à la Bayle, à l'ariégeoise, parce que je suis moi-même en partie ariégeois. Vous savez qu'ici on dit Bayle, hein, on peut dire Bayle, Monsieur Bayle. Bayle, bon. Une petite ville d'Ariège, du Piémont des Pyrénées. Son père était pasteur là-bas, donc il est né dedans d'abord. Hein, donc il y a au long de sa vie, on pourrait dire un éloignement, et toute la question, c'est de savoir si cet éloignement est une rupture ou si c'est un approfondissement. Parce que de toute manière, parfois, on voit mieux les choses de loin que de trop près. Donc, de toute manière, c'est comme par rapport aux Pyrénées, on pourrait dire c'est après qu'il a compris ce qu'il avait perdu en perdant les Pyrénées. Il en parle souvent de son enfance ariégeoise. Donc, c'est vrai, il y a un côté religion d'un philosophe, et il y a un côté philosophe d'un théologien, en tout cas d'un fidèle protestant. Voilà. Donc, c'est un moment. Bayle, il est caractéristique d'un moment. Il y a un moment, Bayle, on peut dire, qui est très intéressant, un moment de notre mémoire philosophique et de notre mémoire théologique et religieuse. Mémoire théologique, par exemple, je vais donner tout de suite quelque chose pour lequel je ne suis pas tellement d'accord avec Patrick Cabanel. Patrick Cabanel pense que c'est Jurieux, le grand adversaire de Bayle, qui était le mentor de l'Église des Lumières, de l'Église du Désert. Et en fait, c'est pas vrai. Bayle était beaucoup plus important. Antoine de Cour a été davantage marqué par Bayle que par Jurieux, par exemple. Le désert, dans sa différence avec l'épisode de Camisard, peut-être pour l'épisode Camisard, peut-être, mais l'époque du désert, c'est autre chose. La réorganisation des églises au désert a été plus fondée sur sympathie ou empathie avec la pensée de Bayle. Et puis alors, ultérieurement, le protestantisme français, d'après la Révolution française, d'après non seulement l'idée tolérante, mais la Révolution française et du XIXe siècle, a été, tout ce qu'on a appelé la théologie libérale, a été évidemment très très marqué par les débats portés déjà par Bayle sur un certain nombre de sujets, la théodicée et d'autres. Et donc, un débat intime, on va dire, entre la foi et l'athéisme. Et je vais essayer de développer ce point qui me semble très important. Bayle n'a cessé de jeter des paradoxes. Par exemple, on peut être athée et vertueux. On peut être athée et moral. Ce qui, à l'époque, n'était pas du tout évident. On pensait que... Il disait aussi qu'une société d'athées, il était très spinoziste sur ce point, était tout à fait viable. Et d'ailleurs, une société de purs chrétiens ne serait politiquement pas viable parce qu'ils seraient absolument non violents, ils ne répondraient jamais aux ennemis et que donc ça se casserait la figure tout de suite. Et donc, il essayait de... Il brouillait un peu les images... Et quelque part, en rouvrant quelque chose de conforme à l'Évangile et à la Réforme et à la tradition calviniste. Je vais beaucoup développer cette idée. Donc, je pense que lui, c'est un calviniste hétérodoxe, certainement. C'est pas un calviniste gomariste, pour prendre des querelles de l'époque. Je ne vais pas rentrer dans les querelles autour de la prédestination ou autres, des querelles tardives autour du calvinisme. C'est un calviniste hétérodoxe, mais il y a autant d'héritage de Calvin dans l'héritage hétérodoxe que dans l'héritage orthodoxe, si je peux dire. Ce sont autant des héritiers de Calvin. Et donc, et même, d'une certaine manière, c'est les héritiers hétérodoxes sont des héritiers qui nous font voir chez Calvin des choses que sinon on ne verrait pas. L'article Calvin du dictionnaire de Bayle, on devrait le publier comme un petit livre. En soi, il a une immense valeur. Je voulais vous proposer ça d'abord à Philès. Il préfère, par exemple, ça c'est tout à fait calviniste, il préfère être traité d'être athée que d'être un idolâtre, si vous voulez. Hein. Il vaut mieux être athée que païen. Ça c'est très typique de la polémique calviniste à cette époque-là. Alors, il est fils d'un pasteur ariégeois, il est persécuté. C'est difficile de quitter une religion persécutée, une religion minoritaire. C'est pas facile. Donc il ne faut pas croire qu'il puisse le quitter si facilement que ça, de toute façon. Je pense que forcément, il y a une sorte de loyauté à une petite communauté persécutée. Mais c'est vrai qu'il y a chez lui une question du genre, une question critique, du genre « Ah, c'est ça que vous appelez Dieu ?» Ça, c'est la question, c'était un ami sociologue, Luc Boltanski, qui disait, la question critique, c'est ça. C'est, ah, c'est ça ce que vous appelez, et puis on peut suivre n'importe quoi. Ah, c'est ça ce que vous appelez la laïcité. Ça, c'est la question critique. Bon. Ah, c'est ça ce que vous appelez Dieu. Je me rappelle un dessin où on voyait un oiseau assis, il avait passé dans un avion, à côté d'un passager, il avait passé la ceinture de sécurité, il se tourne vers le passager, il dit « Ah, c'est ça que vous appelez voler ?» c'est un petit peu ce que Bayle fait, aux théologiens de son époque. « Ah, mais c'est ça que vous appelez Dieu, vous ?» Et donc là, ça ouvre une espèce d'abîme. Ah, ah oui, c'est vrai. Est-ce qu'on peut dire que c'est ça, Dieu? Est-ce que ce n'est que ça, Dieu?
Je vais développer ça. Donc, critique des théodicées. Mais d'autre côté, en même temps, ça c'est son côté, on va dire, en rapport avec la théologie, hein, un rapport intime, je dirais, de travail constant. D'autre côté, il est dans la transition entre Descartes et les Lumières. Il y a quelque chose qui vient de Descartes, on va vers les Lumières. Notamment, il y a tout son débat. Alors, par rapport aux Lumières, il y a des différences entre lui et les Lumières. En fait, il est très éloigné du sentiment des Lumières, qui est le sentiment de, on va dire, on est au-dessus, à la Voltaire, si vous voulez, à la française, on est au-dessus de ces chiffons obscurantistes, on ne va pas se battre pour des superstitions, pour des querelles idiotes. Non, le mouvement de Bayle, c'est plutôt, on est tous dans les ténèbres. C'est pas, on est tous au-dessus des ténèbres, on va tous monter au-dessus des ténèbres, on va tous, par l'éducation, par sortir des ténèbres. Non, c'est, de toute façon, on est tous dans les ténèbres. Il y a seulement ceux qui savent qu'ils sont dans les ténèbres et ceux qui croient qu'eux, ils ont les vérités, qu'ils ont la lumière. Alors ceux-là, ils sont encore plus dans les ténèbres parce qu'ils sont complètement aveuglés par leurs croyances. Ça, c'est vraiment ce en quoi Bayle prépare les lumières par un sentiment de ténèbres, d'enténèbrement général, si vous voulez. Donc pas par en haut. C'est pour ça que je dis que c'est plutôt des alter-lumières que des lumières, ou même que des lumières radicales, comme certains le disent. Et ça se voit très bien dans un des aspects les plus connus de son œuvre. Je ne vais pas faire une introduction trop longue, mais je vais encore développer ça. C'est l'idée qu'il y a une théodicée, qu'il y aurait des théodicées, qu'on pourrait justifier Dieu de l'existence du mal, qu'on pourrait sauver en même temps le côté tout bon de Dieu et le côté tout puissant de Dieu. Et il déconstruit ça en disant, c'est très difficile de combiner tous ces caractères de Dieu. Et en plus, alors Leibniz, qui est son grand adversaire, qui va lui répondre par des essais de théodicée, va dire oui, mais il sous-estime l'intelligence de Dieu. Alors on pourrait rajouter la troisième figure, la toute bonté, la toute puissance et aussi la toute intelligence. Et d'une certaine manière, Bayle, quelque part, discute les trois hypothèses. Peut-être que Dieu est... On peut imaginer un Dieu tout bon et tout intelligent, mais faible. On peut imaginer un Dieu très fort et très intelligent, mais méchant. On peut imaginer un Dieu bon et fort, mais bête. La troisième hypothèse n'a pas été tellement étudiée, à vrai dire. Et je trouve que c'est intéressant d'aller chercher les petites pointes, parce que chez Bayle, on trouve de tout. Il a tout essayé. Il essaye dans tous les sens. Hein, c'est ça qui est absolument passionnant. Et puis, en philosophie politique, je vais un tout petit peu m'attarder là-dessus, parce que pour moi, c'est très important. Au cœur du théologico-politique, il y a un apport de Bayle par rapport au théologico-politique de son, qui domine son époque. On est en pleine guerre de religion, en pleine persécution religieuse. Donc, le théologico-politique, c'est absolument fondamental. Le théologico-politique, ça veut dire aussi le statut des Écritures, par exemple. Le modèle du rapport entre Dieu et son... Et l'homme et l'humain, qui est aussi le rapport entre le roi, par analogie, entre le roi et le peuple, entre le Christ et l'Église, enfin l'époux et l'épouse, enfin le père et l'enfant. Enfin moi, il y a plein de métaphores là, théologico-politiques qui travaillent l'imaginaire politique. Alors on a Bayle va faire travailler le paradoxe de tenir en même temps la pensée de Hobbes, qui est pratiquement un penseur du pouvoir absolu, et la pensée de Milton, qui est un penseur de la liberté. De la liberté radicale. Donc comment les penser ensemble? C'est un énorme problème politique de cette époque-là. Je dirais que c'est aussi un énorme politique aujourd'hui. On va voir ça un petit peu chez Bayle. Et je dis, voilà, pour moi, c'est une pensée qui est encore aujourd'hui, par certains côtés, inaccessible, inapprochable, enfouie, oui, intempestive, inactuelle. Le fait ce qui lui est arrivé, une petite histoire toute très bête, c'est que il s'est fait convertir au catholicisme à Toulouse par les jésuites. Il avait quoi, je sais pas, 18 ans, dans les controverses qui préparent la révocation de l'Église de Nantes. Et quelques mois après, il revient à la foi de ses pères. Et donc il est relapse, il est retombé dans l'erreur. Bon, et donc il doit absolument, à ce moment-là, c'est catégorique, il doit absolument quitter le territoire français. S'il est pris, il est mis en prison, il est etc. Donc voilà, ça c'est ce qui lui arrive dans la vie. Mais du coup, philosophiquement et théologiquement, il lui reste une espèce de... Une inquiétude au cœur de... En même temps, il va soutenir l'importance de la sincérité, mais il va y avoir une inquiétude sur la sincérité elle-même. C'est-à-dire,
un doute fondateur sur le, ce qu'il va appeler finalement les droits de la conscience errante, les droits de la conscience qui est dans l'erreur. Je développerai ça parce que je crois que c'est un point très, très important. Donc, tout ça pour dire, Bayle, c'est un auteur extrêmement équivoque. On peut l'interpréter comme un sceptique, on peut l'interpréter comme un athée, avec vraiment un système, en fait, il y aurait un Bayle apparent et puis un Bayle caché qui aurait une pensée complètement cohérente, complètement rationnelle, mais qui n'a pas voulu afficher complètement parce qu'il avait peur de la persécution. Voilà. On pourrait même peut-être dire qu'il ne voulait pas faire de peine à ses amis, hein, on peut même le dire comme ça, moi. Et puis, une autre hypothèse qui est celle que c'est un protestant fidéiste qui est resté fidèle à la foi protestante au travers d'une crise profonde de la raison théologique et de son époque. Tout cela, ce sont des hypothèses qu'on peut tout à fait soutenir de manière très loin. Là, par exemple, j'ai amené un livre d'un ami qui s'appelle Anthony McKenna, qui est professeur à Saint-Étienne, en tout cas lié à un labo de l'ENS à Lyon, l'École normale supérieure de Lyon, qui travaille beaucoup sur cette époque-là. Et donc, il a fait des études sur Pierre Bayle. Et lui, il soutient l'hypothèse d'un Bayle complètement athée, par exemple. Et le plus connu actuellement, c'est un Italien, un chercheur italien, relativement jeune, qui s'appelle Gianluca Mori. Et c'est lui qui est le partisan de cette thèse du Bayle athée. C'est une thèse très forte dans la pensée italienne actuellement. Et française, du coup, aussi. La France avait été longtemps plutôt dominée par la figure d'Elisabeth Labrousse, que nous connaissons. C'était la fille d'un collègue de la faculté de théologie de Paris, Gogel, François Gogel, qui avait fait un travail, elle était chercheur CNRS, elle avait vraiment consacré sa vie à Bayle, et elle a montré que, justement, elle connaissait toute la vie de Bayle, elle connaissait tous les écrits de Bayle, elle connaissait, comme je pense, jusqu'à présent, personne ne connaît, elle est tout à fait étonnante. Elle, pour elle, c'était quand même un penseur qui restait protestant jusqu'au bout. Hein. Donc, vous savez que moi, je me sens plus proche de cette lecture-là, mais je pense que c'est important d'entendre, de faire entendre le plus loin possible toutes les lectures, parce que Bayle lui-même, il était comme ça. Je vais essayer de montrer pourquoi Bayle était lui-même comme ça. Donc tout ça se voit très bien quand on lit le Dictionnaire historique et critique, son grand livre, son œuvre majeure. Je ne sais pas, dans les vieilles bibliothèques, on a encore le Dictionnaire historique et critique en 3, en 5 volumes, voilà, tout ça. Avec donc... je vais en parler, c'est un dictionnaire des erreurs, et donc on ne sait pas pourquoi il y a tel nom et pas tel autre, c'est un dictionnaire de noms propres, dans lequel il y a un petit corps d'articles et puis des remarques interminables qui sont des remarques critiques qui développent cela. Et donc, dans ces dictionnaires historiques et critiques, on voit très bien le mélange de cartésianisme, de choses qui annoncent des lumières, de choses qui viennent de la tradition de la Renaissance, la proximité avec Machiavel, avec Bodin, ce qui vient du monde protestant. Et du coup, on pourrait dire que Bayle est un des premiers à faire dialoguer l'Europe protestante et l'Europe latine, on va dire, l'Europe catholique. Parce qu'il justement il mélange les traditions, il mélange les lectures, il fait connaître les uns aux autres. Parce que c'était des mondes qui étaient peu à peu, qui s'étaient un peu isolés, hein, chacun à leur manière. Bon, voilà, ça c'était un petit peu les quelques mots que je voulais dire sur le contexte général de la pensée de Bayle. Peut-être juste encore un petit mot, c'est une sorte de mot d'introduction, pour vous montrer un tout petit peu le caractère rebroussier de Bayle. Bayle écrivait, dans son projet de dictionnaire, il disait « L'homme préfère se faire du mal, pourvu d'en faire à son adversaire, plutôt que de se procurer un bien qui tournerait aussi à l'avantage de son adversaire. » Vous voyez, donc Bayle a une vision extrêmement ténébreuse de notre capacité à faire du mal, à nous faire à nous-mêmes du mal. Mais en même temps, par rapport à Adam Smith, à l'optimisme d'une anthropologie libérale d'Adam Smith, dans laquelle c'est en cherchant chacun son bien qu'on fait le bien commun, peut-être que c'est une anthropologie quelque part plus sombre, mais aussi, d'une part, qui décrit mieux la réalité, peut-être, en tout cas de certaines époques, de moments de l'humanité, et puis en plus, quelque part aussi, par certains côtés, plus optimiste, parce que ça veut dire que les humains sont capables de se sacrifier pour autre chose qu'eux-mêmes. Donc il y a bien cette dimension cette dimension de sacrifice, qui est donc aussi une dimension de presque de sacré. Il y a du sacré. Les humains, ils ont du sacré. Et ils l'observent, ils le voient. Et qu'est-ce qu'on fait avec le sacré? Et comment est-ce qu'on va faire politiquement avec le sacré? Le fait que les humains, ils ont des choses qui sont sacrées. Comment est-ce qu'on fait avec ça? C'est vraiment un vrai problème pour l'époque et pour toujours. Et donc, je crois que c'est un point important. Donc, j'ai parlé du drame fondateur, du doute qui en restait. Je voudrais revenir un tout petit peu là-dessus, parce que du coup, ça jette les bases de sa psychologie d'exilé. C'est quelqu'un qui est vraiment, ce que j'appelais tout à l'heure, une conscience errante. Quelqu'un qui n'a plus jamais été complètement chez lui, nulle part. Et quand je dis de doute, c'est pas seulement le doute cognitif à la Descartes ou un doute méthodique, c'est une inquiétude existentielle, je dirais, à la fois éthique, morale, historique. Ça touche la connaissance des autres, ça touche la possibilité de comprendre les autres, de nous comprendre mutuellement. Donc c'est pas seulement est-ce que le monde existe, une question un peu métaphysique, on pourrait dire. Même si chez Descartes, c'est beaucoup plus fort que ça, bien sûr, mais c'est quand même d'abord ça, et cette dimension cognitive. Là, il y a une dimension vraiment existentielle extrêmement forte, et donc la possibilité d'une sincérité. Qu'est-ce que c'est qu'être sincère? Donc, c'est avec cette psychologie-là qu'il va être déraciné. Il arrive à Genève, de là, il va partir comme précepteur à Copé, ça c'est l'étude de théologie à Genève, il va à Copé, il se retrouve comme précepteur à Paris. Il est finalement nommé professeur de philosophie à l'Académie de Sedan, qui est une académie réformée. Il y a Saumur, Sedan, Montauban, quelques autres comme ça. Et puis elles sont fermées les unes après les autres. Et Sedan va être fermé en 81, en 1681. Je me rappelle que Elisabeth Labrousse avait trouvé une formule extraordinaire en marge d'un cours de philosophie de l'époque de Sedan, où Bayle commente Descartes, le cogito ergo sum, et lui, il écrit cogitas ergo es. Tu penses donc tu es. C'est une idée. On sent tout bail dans cette formule. Cogitas ergo est. Je ne peux pas dire ça de moi-même, je peux le dire de l'autre, et l'autre peut le dire de moi. C'est mutuel, c'est oblique. Il n'y a pas d'existence qui se fonde elle-même. C'est oblique, on se le dit mutuellement. Et se jette la mutualité, cette idée qu'on pense avec autrui, c'est quelque chose de tout à fait fondamental. Donc il quitte Sedan, il se retrouve à Rotterdam, à l'école illustre qui a été créée par un pote qui s'appelle Adrien Patz, qui fait venir tous les réfugiés là. Bon. Et là, il arrive dans ses bagages avec un premier manuscrit qui est très connu, qui s'appelle « Les pensées diverses sur la comète ». Les pensées diverses sur la comète, il les publie en 1682, c'est anonyme, il fait semblant d'être un catholique modéré qui se moque des superstitions de catholiques. À vous dire, on peut dire que c'est un exercice, là encore, extrêmement calviniste. On sait dans le traité des reliques comment Calvin se moquait des superstitions catholiques. Et là, c'est des superstitions par rapport justement aux comètes, la peur des comètes, etc. Et donc, c'est des superstitions qui touchent les superstitions classiques du monde catholique, mais qui touchent aussi des superstitions protestantes, parce qu'il y a tout un prophétisme protestant, tout un apocalyptisme protestant. Ça, c'est, je dirais, les superstitions protestantes, elles se sont réfugiées dans le rapport à l'apocalypse. Et donc, quand il met le doigt là-dessus, Calvin déjà avait bien senti ce problème-là, puisqu'il n'avait pas fait de commentaire de l'apocalypse. Là, donc là, il met le doigt dessus, et justement, il met le doigt sur un point très important qui va peu à peu le mettre en tension avec son grand ami de Sedan qui est venu avec lui en exil, qui s'appelle Pierre Jurieux, et qui va peu à peu devenir son grand ennemi, et qui, lui, est vraiment quelqu'un qui est tout le temps... qui joue tout le temps, comme disait Bayle, du cornet prophétique. Tout le temps, attention, là, bientôt la fin du monde, attention, réveillez-vous, attention, les trompettes du jugement, ça y est, Louis XIV, c'est la Babylone, enfin, toute cette imagerie de l'apocalypse qu'on projette sur... Et ça, Bayle, il ne supporte pas ce ton apocalyptique. Donc, c'est plutôt de l'ironie, c'est un ton bonhomme, et là, tout le monde trouve ça... tout le monde trouve ça très bien. Tout le monde est assez d'accord. Alors, en 82 aussi, il rédige très vite une critique de l'histoire du calvinisme d'un père jésuite qui s'appelle le père Mainbourg. Et c'est une... là, dans ces deux livres, il fait œuvre, je dirais, de philosophe de l'histoire, de philosophe critique de l'histoire, du sens de l'histoire. S'attaquer aux fausses vérités, aux vérités qu'on répète, mais qui ne sont basées sur aucun témoignage, ou sur des témoignages biaisés, ou sur des témoignages malveillants, ou sur des mensonges explicites, etc. Bon, il y a tout un travail de critique historique, de critique des documents, de critique des textes, de critique des sources, qu'il va monter en s'appuyant sur Descartes, d'ailleurs sur les deux sources de l'erreur, qui sont la malveillance et l'ignorance. Et là, il fait une grosse imprudence, parce que ce livre est extrêmement méchant contre la doctrine catholique officielle en France. Et un peu plus tard, son frère, Jacob, va être mis, qui était pasteur, qui était venu épauler son père au Carlabail, là-bas en Liège, va être mis en prison, il va mourir en prison. À cause de Pierre Bayle, à cause de son livre sur l'histoire des... Louvois punit le frère en emprisonnant le frère aîné qui est pasteur. Et c'était son meilleur ami, en fait. Son frère, c'était son ami dans sa correspondance. C'est impressionnant de voir cette amitié pour ce frère. Donc, voilà, ça c'est deuxième œuvre. Troisième œuvre, je ne vais pas m'attarder sur les œuvres, mais juste pour que vous voyez un petit peu quand même qui est Bayle. Il écrit de 84 à 87, pendant 3 ans, il soutient une revue qui s'appelle « Les Nouvelles de la République des Lettres ». C'est un moment tout à fait passionnant de sa vie. Et là, il publie, il ne se cache pas. Les deux autres livres sont sous pseudonyme. Là, il ne se cache pas parce qu'en fait, c'est une recension d'ouvrages, c'est pluraliste. Il donne la parole à tout le monde. Il fait le travail qui le passionne. Ça, il est vraiment... là, il est vraiment lui-même quand il fait ça. Hein. Ça, je crois que c'est un point très important. Il fait dialoguer des thèses. Il fait... différentes sur l'histoire, sur les exégèses, sur la géographie, s'il y a des récits de voyage. Enfin, c'est la revue des savants de l'époque. C'est une des premières revues européennes. Et le français était à l'époque la langue de l'Europe savante. Et donc, on y est abonné de l'Italie à l'Angleterre, à l'Écosse, de l'Allemagne, partout. Et donc, c'est vraiment un moment extrêmement important de sa notoriété, mais aussi, je dirais, de la conscience européenne. Et puis, voilà. Alors, donc, c'est dans les pensées diverses sur la comète, c'est là qu'il s'attaque au paradoxe d'une société athée, hein, de la viabilité d'une société athée. Alors, en 85, révocation de l'édit de Nantes, mort de son frère en prison, 2 mois après, révocation de l'édit de Nantes. Là, vraiment, c'est des gros. Il le voyait venir, il savait que ça se préparait, mais d'une certaine manière, ça, il ne peut plus garder le ton bonhomme et affable qu'il avait jusque-là. Il va publier un petit pamphlet, ce que c'est que la France toute catholique sous Louis, je ne sais pas pourquoi. Et puis, alors son grand livre, son premier grand livre, qui s'appelle Le Commentaire philosophique, mais je vais y venir tout de suite. Ce que je voudrais juste que vous compreniez bien, c'est que ce qu'a fait Louis XIV était absolument ignoble pour les gens de cette époque-là. Parce que il y avait un traité qui s'était... une sorte de consensus qui s'était établi, c'est que... qui n'était pas respecté en France, parce que la France était sous un régime particulier qui était l'édit de Nantes. Mais les guerres de religion, en général, c'était solutionné par le principe de « à chaque roi, sa religion ». Et donc, la soupape de ce principe, c'est que les gens qui n'étaient pas d'accord pouvaient émigrer ailleurs. Et là, Louis XIV, il interdit aux gens d'aller ailleurs. Et donc, les droits de la conscience errante dont on va parler, c'est aussi le droit de partir. C'est le droit de l'exil qui est fondamental pour les protestants. Les protestants ne demandent pas à ce que leur religion soit imposée. Ils demandent d'avoir le droit de partir, le droit d'aller recommencer leur vie ailleurs. C'était ce droit qui leur paraissait élémentaire et que Louis XIV leur refusait. Donc je signale ça parce que en philosophie politique, ça a des conséquences importantes. Mais ça a des conséquences aussi, je dis ça pourquoi ? C'est parce que je pense que Pierre Bayle, c'est quelqu'un qui a gardé jusqu'au bout la nostalgie de l'édit de Nantes. D'une société où finalement, au Carla, les catholiques et les protestants, ils se partageaient ça vivait ensemble depuis plus d'un siècle, et ça marchait pas si mal que ça. Il y avait d'ailleurs même des mariages, on retrouve en Ariège, on a une histoire. Et donc, quelque part, c'est encore un promoteur de l'idéologie. Il essaye de comprendre c'était quoi le rêve d'Henri IV avec l'édit de Nantes. C'est ça, quelque part. Donc, quelque part, on peut dire que Bayle est prémonitoire par rapport aux Lumières, par rapport à la tolérance, par rapport à la Révolution. Mais on peut dire aussi bien qu'il est complètement archaïque, qu'il essaye juste de penser un régime qui s'est cassé la figure. Et c'est la raison pour laquelle il pense un double régime, c'est très calviniste, c'est très luthérien d'ailleurs, entre d'un côté l'adhésion religieuse qui se fait en conscience, mais qui est libre, et puis l'allégeance civile au souverain et qui reconnaît une légitime contrainte. C'est deux ordres différents. L'ordre politique, il y a une légitime contrainte, mais ça veut dire que l'ordre politique reste l'ordre politique, qui ne s'occupe pas de religion. Puis l'ordre religieux qui était un ordre de la libre adhésion, et on peut pas, il n'y a pas de contrainte en matière religieuse. Voilà. Mais peu à peu, il a bien vu que la France était un pays plein de bisbilles, plein de retors, dans lequel le Parlement de Toulouse avait été épouvantable. Et donc, peu à peu, il s'était constitué une idée qui était une idée générale chez les protestants de l'époque, chez beaucoup de protestants de l'époque, en France, je veux dire, c'était l'idée qu'il fallait en France un monarque fort. Justement, il fallait un monarque fort pour protéger la minorité contre la majorité catholique. Donc, ça c'est très important à comprendre. Les protestants français ont été le plus loin possible hyper loyalistes parce qu'ils pensaient toujours que oui, tout ce qui ramène le pouvoir dans les mains du roi est bon. Donc il faut être absolutiste. Donc il ne faut pas oublier ça. Et ça s'appuyait sur une conception qui vient de Calvin. C'est l'idée que les sociétés sont très diverses, qu'elles ont des mœurs, des cultures diverses, et que certaines sociétés peuvent supporter une grande pluralité, etc. Puis que d'autres sociétés ont besoin d'un pouvoir assez fort parce que c'est des sociétés beaucoup plus turbulentes, où il y a beaucoup plus de barons qui veulent toujours prendre leur autonomie, et que, etc. Donc il insiste beaucoup là-dessus. Il ne se pourrait trouver... il parle de quelqu'un qui dit « Les factions, les séditions, les tumultes, les guerres civiles font souvent plus de mal en un an que le dérèglement d'un monarque absolu n'en pourrait causer en toute sa vie. » Peut-être que c'était faux par rapport à certains pays, mais ce n'est pas faux par rapport à la France. Elle est d'un tel génie que le plus fâcheux état où elle se puisse trouver est de vivre sous un gouvernement mou et faible. Alors chaque gentilhomme est le tyran de son village, chaque grand seigneur le tyran de son canton. Puis après, donc sur le Parlement, Donc vous voyez, il faut sentir cette la réaction, sortir de cette espèce de situation de féodale, de petits barons locaux dans lesquels on est. Il y a beaucoup plus de tyrannie qu'autre chose. Ce qui fait que, quelque part, il est complexe parce qu'il est monarchiste en France, alors qu'il est républicain aux Pays-Bas. Il est pour la République, etc. Alors que Jurieux, son adversaire, il est orangiste aux Pays-Bas. Il est orangiste, donc Guillaume d'Orange, qui va prendre le pouvoir après en Angleterre, qui va faire ce qu'on appelle la Glorieuse Révolution en Angleterre. Donc il est monarchiste aux Pays-Bas, qui pourtant avait une tradition de pluralité républicaine. Et en revanche, il est républicain pour la France. Ah oui, donc ils sont complètement sur... Ils ne sont pas les tous à la même longueur d'onde, vous voyez, bon. Mais je pense que Bayle s'appuie, lui, sur une conception proprement politique dans laquelle la France avait besoin d'un monarque fort, et les Pays-Bas savaient vivre, savaient faire coexister une pluralité dans une pluralité, donc il y avait moins besoin d'un monarque fort. Voilà, c'est un petit peu ce que je voulais dire sur ces premières œuvres. Alors, j'entre dans le grand débat, ce qui est pour moi le grand débat, qui explique le cœur du rapport à la le nœud philosophico-théologique politique de la pensée de Bayle. C'est le débat entre le commentaire philosophique, qui est un grand livre sur la tolérance, et puis un autre livre beaucoup moins connu, et dont certains ont dit même que c'était pas du Bayle, que c'était pas possible, et dont Gianluca Mori, dont je vous parlais tout à l'heure, a montré que c'était bien du Bayle. Et alors c'est un livre, c'est très embêtant pour les protestants, parce que ça s'appelle, le titre c'est Avis aux réfugiés, en disant écoutez, vous les réfugiés, partout où vous êtes, aux Pays-Bas, en Angleterre, arrêtez de jeter de l'huile sur le feu pour amener le soulèvement, les camisards, etc. Restez loyaux, restez des fidèles, même à l'étranger, même en exil, soyez des loyaux sujets du roi de France. Parce que là, vous ne faites qu'empirer la situation du protestantisme dans le royaume, avec vos appels à la dissidence, vos appels à la révolte, vos appels, etc. Et vous ne faites que donner du grain à moudre à tout cela. Donc je vais essayer de développer. Alors que le texte précédent est un texte justement de protestation, bien appuyé sur la condition qui avait été faite aux protestants par les dragonnades, notamment. Alors le contexte, il nous concerne de très près, puisque ça se passe ici, pratiquement. Le 21 octobre 1685, Bossuet fait une prédication et aussi un texte dans lequel il justifie les conversions forcées par Augustin, qui parlait du compelle intrare, contrainé d'entrée, de la parabole du festin. Allez, il faut aller par l'espace public, chercher les gens et forcer-les d'entrer au banquet. Et donc le titre, c'est commentaire philosophique sur ces paroles de Jésus-Christ, contrainé d'entrée, où l'on prouve par plusieurs raisons démonstratives qu'il n'y a rien de plus abominable que de faire des conversions par la contrainte, et l'on réfute tous les sophismes des convertisseurs à contrainte et l'apologie que saint Augustin a fait des persécutions. Ouais, ça, c'était un titre d'un livre. Au moins, à l'époque, on annonçait la couleur. Alors, c'est un livre. C'est un commentaire philosophique sur une parole biblique. Donc, c'est vraiment un livre d'herméneutique au sens technique, un livre d'interprétation du texte biblique. Et donc, il va parler du statut du texte. Qu'est-ce qu'on peut faire dire au texte et qu'est-ce qu'on ne peut pas leur faire dire? Voilà, je dirais, le cœur d'un aspect vraiment philosophico-théologique du problème, qui est vraiment un point très important. Et puis, à travers ça, plus largement, il y a cet éloge de la tolérance. Il écrit comme on ne peut pas arriver à trouver une solution sur le fond. Eh bien, comme c'est une chose plus à souhaiter qu'à espérer, eh bien, qu'à attendre, comme la diversité d'opinions semble être un apanage inséparable de l'homme, il faut réduire ce mal au plus petit désordre qui sera possible, et c'est sans doute de se tolérer les uns les autres. Voilà, ça c'est un truc. Et il continue, si chacun avait la tolérance que je soutiens, il y aurait la même concorde dans un État divisé en 10 religions que dans une ville où les diverses espèces d'artisans s'entre-supportent mutuellement. Il y a besoin d'une pluralité d'artisans pour le bien-être de tout le monde. Et la pluralité des religions concourrait par une honnête émulation, dit-il, ce serait la chose du monde la plus propre à ramener le siècle d'or et à faire un concert et une harmonie de plusieurs voix et instruments de différents tons et notes aussi agréables pour le moins que l'uniformité d'une seule et même voix. Là, en fait, il commente un philosophe français qui s'appelle, philosophe du droit, qui s'appelle Jean Bodin, qui faisait l'éloge aussi de la pluralité en pleine guerre de religion. Voilà, ça c'est donc un aspect important. Et donc, on ne peut pas contraindre. On ne peut pas contraindre parce que ce à quoi on contraint ne peut pas justifier la contrainte en matière de religion. La religion ne justifie pas la contrainte. Et deuxièmement, parce que ce n'est même pas efficace. Parce qu'on croit contraindre. On ne peut contraindre le corps, mais on ne contraint pas les sentiments. Même au contraire, ça fait de la rébellion, ça fait des mauvais sentiments, ça fait etc. Et donc on n'a pas cette puissance. Et il écrit aussi commander à la main de signer n'est pas commander à la conscience d'affirmer. Et les sujets, je cite toujours, sueraient plutôt au milieu des neiges, ils tireraient plutôt de leur chair et de leurs os du vin et de l'huile que de leur âme telle ou telle affirmation. Ça veut dire que ça ne dépend pas de nous d'avoir une adhésion, d'avoir une affirmation, d'avoir une croyance. Ce serait plus absurde encore que de punir les sujets qui n'auraient pas les yeux bleus ou qui n'aimeraient pas telle sauce. Ou plus ridicule que si le pape Adrien VI prétendait obliger ses états à avoir du goût pour le merlan. Parce qu'en fait, Adrien VI aimait beaucoup le merlan et apparemment il voulait que tout le monde mange le merlan. Vous voyez, ça parle d'un très bon sentiment. Mais goûter comme c'est bon, vous voyez, il y a des gens qui peuvent ne pas aimer le merlan, c'est juste ça. Vous voyez, à quoi il ramène la religion, c'est des questions de goût, on n'y peut rien, c'est des questions des goûts et des couleurs, il ramène à une question presque d'esthétique, c'est très curieux, c'est une démarche, il utilise tous les moyens. Et puis soudain arrive cette formulation verticale, les droits de la conscience sont directement ceux de Dieu même. Alors là, ça fait réfléchir, parce que si justement, c'est pas seulement une question de goût dans ce sens un peu relativiste, mais c'est les droits de Dieu, ça veut dire que la conscience, et c'est ça quelque chose qu'on a oublié, là il est complètement anachronique pour nous, on a oublié que pour les gens de cette époque-là, et pour les protestants de cette époque-là, la conscience, c'est ce qui en moi est devant Dieu. Et je dirais même plus, la conscience, c'est ce qui en moi appartient complètement à Dieu, immédiatement. C'est-à-dire, ça ne m'appartient pas. Donc, c'est pour ça que ni le prêtre ne peut changer ma conscience, ni le roi, ta personne. Moi-même, je ne peux pas changer ma conscience. C'est un argument que Calvin a utilisé pour la prédestination. Ça appartient à Dieu, ça ne nous appartient pas. On n'a même pas à s'en soucier. On n'y peut rien. Ce n'est pas notre affaire. On laisse tomber. C'est pas notre. Donc c'est inaliénable. Il y a une réserve en moi qui m'échappe. Il y a en moi quelque chose qui m'échappe complètement. Vous voyez, c'est des arguments extrêmement, extrêmement, extrêmement forts. Au passage, je voulais juste signaler qu'il insiste sur le fait qu'il n'y a pas de liberté de penser si on parle de la tolérance, s'il n'y a pas de liberté de communiquer sa pensée. C'est une idée qu'on va retrouver très fortement chez Kant. C'est-à-dire, parce que finalement, les gens disaient, il y avait des gens de très, très bien intentionnés, il y a d'honnêtes gens ennemis de la persécution à ce qu'ils croient, et grands partisans des immunités de la conscience, qui disent que les souverains ne peuvent pas, par la vérité, châtier ceux dont on a surgé qui ont une telle foi, mais qui peuvent, sous certaines peines, leur défendre d'en fait profession publique. Mais on peut pas. On ne peut pas avoir une foi si on ne peut pas en parler. Si on peut pas... Et ça, c'est très protestant. Parce que les calvinistes, je vais revenir là-dessus, notamment. Justement, c'est le refus d'avoir une double morale entre ce qu'on montre, on accepte d'aller à la messe, etc. Et puis ce qu'on pense réellement. Il faut afficher, comme Luther affiche ses thèses, il faut afficher ce qu'on est, il faut afficher sa pensée. Il faut être clair, il faut penser ce qu'on dit et dire ce qu'on pense. Hein, ça, ils y tiennent beaucoup, c'est très important. C'est une psychologie qui tient beaucoup à ça. Et donc, voilà, il incite beaucoup là-dessus, et ça, c'est très important par rapport à la, pas seulement au droit de la conscience, mais au droit de l'opinion. C'est un point très important que Bayle défend. Alors, il a affaire à une énorme objection, qui est encore l'objection que Gianluca Mori continue à lui opposer, en disant, ça montre bien qu'il n'y croyait pas, mais je crois que c'est une énorme erreur. L'objection, c'est, oui, mais alors, qu'est-ce que vous... Et j'ai encore entendu Paul Valéry, un grand jésuite... un bon copain avec qui je me suis disputé souvent, qui disait exactement la même chose, et oui, mais et si le persécuteur était sincère ? Ah, on peut rien dire, puisque le persécuteur est sincère. Alors c'est là que Bayle, lui, il va mettre la sincérité. Vous rappelez qu'il avait un doute justement sur la sincérité. Donc il va mettre la sincérité au carré, il va dire oui, mais ma sincérité, c'est mon respect de la sincérité de l'autre. Je ne peux pas être. C'est pas juste ma sincérité. Je ne peux pas être sincère si je ne respecte pas la sincérité de l'autre. Et la preuve de ma sincérité, c'est mon respect de la sincérité d'autrui. Vous voyez, c'est très fort. Parce qu'en fait, c'est là, par cette petite brèche, toute la morale kantienne va passer. Il y a la morale de l'impératif catégorique. Il faut que ça puisse être universalisable. Il faut que ça puisse être mutuel. Il faut que ça puisse être réciproque à l'infini. C'est pas juste mon point de vue qui va être légitime. Il faut que ma manière de légitimer mon point de vue, que l'autre puisse l'apprendre. Sinon, ça ne marche pas. C'est une pragmatique de la réciprocité. Hein. Bon. Il ne faut pas oublier la défense d'avoir double poids et double mesure, ni que de la mesure dont nous mesurons les autres, nous serons mesurés, etc. En contraignant les pères, on gagne les enfants, disent les convertisseurs.
Ouais, parce qu'en fait, c'était ça, la ruse. Oui, d'accord, il a raison. Ça fait de l'hypocrisie chez les pères. Oui, mais les enfants, ils vont être convertis, et eux, ils vont être sincèrement convertis. Donc ça marche pour la génération d'après. Il y a une génération foutue. Tant pis, ils auront un enfer. Mais après, les enfants, ils seront sauvés. Et donc c'est pour le bien des enfants, bien sûr. Bon.
Alors il dit, oui, en contenant les pères, on gagne les enfants, disent les convertisseurs. Mais que se passerait-il si tout le monde faisait pareil ? Si le sens littéral du compelli intrare est juste, alors tous les chrétiens peuvent s'en réclamer, le devoir en deviendrait universel et le malheur serait universel. Il faut donc ne se permettre que les mêmes actions qui sont permises à toute la terre. Vous voyez, bon, plus exactement, une même justification de la sincérité, etc. Et voilà, il n'y a pas moins de témérité en ceux qui croient à la vérité qu'en ceux qui croient à ce qu'ils croient être la vérité. Et toujours ce passage réflexif au carré, bon. Ainsi, la différence entre orthodoxie et hérésie est relative, et il écrit « La conscience erronée doit procurer à l'erreur les mêmes prérogatives que la conscience orthodoxe procure à la vérité. » Oui, c'est... Alors, ça, c'est le premier moment. Deuxième moment, la vie aux réfugiés. Alors, pour bien comprendre, il faudrait comprendre tous les conflits avec Jurieu, tous les conflits qui traversent aussi les Pays-Bas de l'époque, hein, pour les Arméniens, les Gomaristes, dont je parlais tout à l'heure, ça, toutes ces amitiés, le Parti républicain, le Parti orangiste, etc. Donc lui, il va prendre, lui qui est aux Pays-Bas, côté républicain, curieusement, si vous voulez, les républicains, ce sont les orangistes, donc les monarchistes des Pays-Bas et derrière Guillaume d'Orange, qui veulent déclarer la guerre au roi de France. Et les républicains des Pays-Bas disent « Mais non, on peut s'entendre avec le roi de France, on peut lui résister, on peut s'entendre avec lui. Il faut pas juste... on peut trouver des compromis. » avec. Voyez. Donc Bayle est sur cette ligne-là, cette ligne loyaliste. Donc, le problème ici, dans ce livre, c'est plus celui de la coercition religieuse que l'État exerce sur la conscience de ses sujets, c'est le problème du commentaire philosophique, c'est celui de la sédition pour raison religieuse. Au nom de la Bible,
j'ai le droit de faire péter des bombes dans les halls des gares, des aéroports. Oh non, vous voyez, tout de suite, je prends une analogie pour que vous voyez ce que ça voulait dire dans les débats de l'époque. Hein. Ça veut dire tous les moyens sont bons, il faut résister. Hein. Le roi est un... C'est Babylone, c'est vraiment... C'est l'horreur. Donc, les sujets s'estiment détachés de l'obligation d'obéir au souverain. Et voilà, donc, il est plus, ce texte très ironique est publié en 1690, bien sûr, sous un pseudonyme. Le commentaire philosophique aussi avait été publié sous un pseudonyme. Il publie tout sous pseudonyme. Hein. Et il faudra y revenir. Pourquoi est-ce qu'il publie sous pseudonyme? Et il montre que le modèle papiste est un très mauvais modèle de théologie que politique, parce que justement, c'est l'autorité de l'Église qui impose à tout le monde. Mais le modèle protestant, un modèle qui favorise, un modèle très horizontal, qui favorise toujours la rupture de... On peut toujours rompre le pacte, on peut toujours couper la tête du roi, Milton, on peut toujours partir, aller ailleurs, hein, mais ça veut dire qu'on peut toujours désobéir. Et donc, il n'y a aucun système politique solide. Ça va être un agrégat toujours instable de petites tribus, de petits clans en guerre perpétuelle. Ben, regardez l'Allemagne, regardez les Pays-Bas. C'est un imaginaire politique extrêmement dangereux. Hein, voilà. Donc il prend tous les arguments, même les plus éculés, utilisés par la propagande catholique, pour les faire entendre. Et alors, il est très habile parce qu'en fait, il le fait en disant, voilà ce qu'on dit. Voilà ce qu'on dit. Il faut qu'on trouve une réponse à ça. Ça, c'est tout à fait du bail. Hein, c'est-à-dire, voilà tout ce qui se dit de nous. Eh ben, il faut qu'on ait de quoi répondre. Mais pour avoir de quoi répondre, il faut quand même qu'on balaye un petit peu devant notre porte. Notamment, on a une manie des libelles. De la propagande, des petits textes, des pamphlets hyper polémiques, etc. C'est vrai qu'il ne fait pas du bien, qu'il ne fait que jeter de l'huile sur le feu, c'est la querelle perpétuelle. C'est vraiment, c'est la zizanie. Le protestantisme comme zizanie. Comme amour de la zizanie. Mais bon, là, je parle contre moi-même, hein, parce que j'adore la zizanie. J'adore la dispute, etc. Bon. Mais vous allez voir comment bail lui-même, il est... Donc, mais je pense que ça date une profonde déception de Bayle à l'égard du protestantisme. Parce qu'en fait, ce qu'il a vu, c'est que tous les arguments qu'il avait pris pour défendre les protestants de France contre le roi, etc., et pour lesquels d'ailleurs son frère était mort en prison quand même, hein, tous ces arguments sont balayés quand c'est pour la bonne cause. Les protestants, en fait, tant qu'ils sont minoritaires, tant qu'ils sont persécutés, ils utilisent ce genre d'arguments, mais quand ils sont majoritaires, hop, ils détrônent un roi catholique pourtant légitime, ils persécutent, ils font la même chose. C'est pas sérieux. Alors, à quoi ça sert? Lui, il était sincère dans sa protestation antérieure. Donc, en fait, il y a une cohérence entre les deux discours, une grande cohérence. Il faut trouver justement l'articulation entre ces principes. Donc, c'est une cohérence, voilà. Il reproche aux protestants français de faire exactement ce qu'ils avaient naguère reproché à leurs ennemis catholiques. Alors là, il commence une grande guerre de pamphlets avec Pierre Jurieu. Finalement, Bayle est mis en procès dans l'église, il est destitué de l'école où il enseigne. Et là, il y a un libraire qui lui offre une bourse pour pouvoir écrire son dictionnaire historique et critique. Et heureusement, c'était magnifique. C'est à ça qu'on doit son dictionnaire. Il me reste combien de temps? J'ai dépassé déjà l'heure.
Il est 48, non, tu veux encore facilement 10 minutes, 12 minutes.
10 minutes, d'accord. Bon. Alors, le dictionnaire critique, non, le dictionnaire critique, en gros, j'ai dit l'essentiel. Un dictionnaire des erreurs, extrêmement pluraliste. C'est un dictionnaire qu'il signe, vous voyez. C'est que le caractère de Bayle, c'est que tout ce qui est pluraliste, il le signe, et tout ce qui est thèse, dans lequel il met tous les arguments dans une... Il va jusqu'au bout d'un discours, il ne le signe pas, il met un pseudonyme. Je dis ça parce que c'est un point important. Donc, il dit du bien de Machiavel, il dit du bien de Baudin, il dit du bien de Spinoza, il dit du bien de Mahomet, il dit du bien de Milton, il dit du bien... C'est très curieux. Il défend, il va ressortir de la boue, de la fange, tous ceux qui avaient été attaqués en disant « c'est des athées, c'est des blasphémateurs, c'est des... » Il va chercher ça. Il prend la défense de Calvin, d'ailleurs, très fortement. L'article Calvin dont je parlais tout à l'heure... Et alors, je m'intéresse à deux auteurs qui étaient très mal vus à l'époque, Hobbes et Milton. Autour du problème de l'interprétation des Écritures, ils n'ont pas eu tout le même point de vue. Pour Hobbes, il y a le monopole de l'interprétation des Écritures, le monopole herméneutique. C'est le roi d'Angleterre, c'est la seule manière de sortir des guerres de religion. Il y a un monopole. Pour Milton, au contraire, c'est chacun est libre. Allez-y, interprétez comme vous voulez. Enfin, il y a une grande liberté interprétative. Bon, je caricature un peu, mais à peine. Hobbes a une très grande conscience des risques du désordre et de la guerre civile. Milton a une très grande conscience des risques de la persécution religieuse et de la persécution de la liberté, de la liberté de conscience, de la liberté de penser, de la liberté d'aller et venir, de la liberté de partir ailleurs, de la liberté même de... Milton, c'est aussi la liberté de divorcer, c'est la liberté de quitter son roi, c'est la liberté de quitter son église. Et finalement, c'est très important. Milton est un auteur... Pour moi, c'est vraiment un auteur de l'émancipation, on va dire, radicale. Hein, bon. Donc, vous voyez, je grossis un peu les traits, mais on est dans... Et la question que pose Weil, c'est comment est-ce qu'on va tenir ensemble Hobbes et Milton? Parce que, quelque part, des deux côtés, on a affaire à une médaille dans laquelle, si vous soumettez les ordres du prince à l'examen des sujets, vous jetez l'État dans le péril continuel des guerres civiles, notamment des guerres de religion. Mais si vous donnez au prince une puissance sans borne, vous jetez le peuple dans la malheureuse nécessité de ne jamais pouvoir sauver ses biens ni sa vie sans se rendre criminel. Oui, c'est épouvantable la situation. Si on lit complètement Hobbes et Milton, on est dans un piège complet. Et donc, qu'est-ce qui est le pire? Le pire du pire, c'est les désordres séditieux, la guerre civile, ou est-ce que c'est la persécution religieuse dont Bayle vient juste de sortir? Tout est pire. Donc vous voyez, on est dans les ténèbres. Et donc, il va falloir simplement corriger les deux points de vue l'un par l'autre, hein, sortir de cette espèce de labyrinthe en essayant de trouver de ne jamais oublier l'autre problème, si je peux dire. Il faut tenir les deux bouts du problème pour s'en sortir. Il faut faire avec, on va vivre avec ce problème, il faut faire avec ce problème durablement, et donc il faut trouver une solution qui, cas un cas, résiste des deux côtés. Donc, voilà le problème politique. Les dernières querelles de Bayle, je veux quand même terminer là-dessus, nous ramènent sur la question de l'athéisme, de manière très centrale. Ça vient d'abord au fait que, c'est d'abord dû au fait qu'il fait cette attaque dans les articles du dictionnaire manichéen, policien, etc. Il attaque les théodicées de manière très très déterminée. Il dit cribler et tamiser comme il vous plaira ces distinctions, vous n'en tirerez autre chose que ceci. 1. Dieu a voulu qu'Adam et Ève lui désobéissent. Et 2. Il a voulu qu'ils crussent qu'il voulait qu'ils lui obéissent. Vous voyez qu'il a une capacité de synthétiser les débats théologiques terribles. Donc, il dit, c'est comparer la divinité, je vous le disais tout à l'heure, c'est ça que vous appelez Dieu? C'est comparer la divinité à un père de famille qui laisserait casser les jambes à ses enfants afin de faire paraître à toute une ville l'adresse qu'il a de rejoindre les os cassés, ou un monarque qui laisserait croître les séditions et les désordres partout son royaume afin d'acquérir la gloire d'y avoir remédié. C'est terrible, hein? Oui, ça c'est tout bête. Donc, il essaye toutes les alternatives, il est toutes les branches. Alors, le matérialisme, c'est pas son truc. Il n'est pas matérialiste parce que être matérialiste à l'époque, c'est quelque part être panthéiste. C'est que Dieu est partout. Le matérialisme, c'est Dieu est partout. Et donc, ça, c'est vraiment pas du tout calviniste. Dieu est extérieur au monde. Être matérialiste, c'est mettre Dieu dans le monde, si je peux dire. Hein, c'est un vitalisme, c'est une sorte d'immanence, c'est même un dynamisme, etc. Donc là, il débat contre ça. Il est très, du point de vue très cartésien, enfin, il est très calviniste. Donc ça, on le rejette. Bon. Alors, hypothèse d'un Dieu transcendant, complètement extérieur au monde. Alors là, il y a deux, encore, il y a une alternative. Soit c'est un Dieu tout-puissant, un grand démiurge, très intelligent, mais il est complètement amoral et révoltant. Soit c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et c'est un Dieu qui semble, en tout cas, absent, faible. En tout cas, on ne le voit pas tellement. C'est un Dieu obscur, un Dieu incertain, un Dieu qu'on ne voit pas. C'est un dieu, dit-il, un dieu crucifié entre deux brigands. Vous voyez, il va loin dans l'image. Hein, vous voyez. Là, c'est des pistes qui vont vers les théologies d'un dieu faible, si vous voulez. Mais il va pas plus loin. Il jette des trucs en disant où est-ce qu'on peut aller, quoi. Et puis, sa solution, c'est pas une solution. Il dit, il y a des gens qui ont la religion dans leur cœur et non pas dans l'esprit. Ils la perdent de vue dès qu'ils la cherchent par les voies du raisonnement humain. Mais dès qu'ils ne se disputent plus et qu'ils ne font qu'écouter les preuves du sentiment, ils sont persuadés d'une religion et ils y conforment leur vie autant que l'infirmité humaine le permet. C'est Spinoza, il parle de Spinoza. Pour lui, c'est... Voilà. Donc, voilà, c'est un vrai... Il se bat contre, justement, toutes les prétentions dogmatiques, qu'elles soient les dogmes traditionnels des Églises, mais aussi les dogmes philosophiques des théologiens rationaux qui essayent de rationaliser la foi, qui essayent de faire la synthèse entre la foi et la raison.
La raison humaine, dit-il, n'est qu'un principe de destruction et non d'édification. Elle n'est propre qu'à former des doutes.
Elle est comme la loi, elle a un usage propédeutique pour nous apprendre à comprendre qu'on n'est pas assez intelligent. La raison a une fonction, elle construit et elle déconstruit. Elle ne cesse de construire et de déconstruire.
C'est comme Pénélope, il la compare à Pénélope,
qui pendant la nuit défait ce qu'elle a fait pendant le jour. Voilà, ça c'est la fonction de la tâche de la raison.
Et alors, Leibniz dira, après la mort de Bayle, que Bayle veut faire taire la raison après l'avoir fait trop parler.
Mais c'est vrai qu'il y a chez Bayle cette dimension de démythologisation au sens de Bultmann. Alors, je parle devant le rang d'un humain, j'espère que je ne vais pas dire des bêtises. Mais l'idée d'une déconstruction, des rationalisations que la théologie avait rajoutées sur le texte biblique pour essayer de rationaliser tout ça. Mais non, si on prend les textes, il faut déconstruire, démanteler ces interprétations allégoriques, ces pseudo-rationalisations. De ces dogmes théologiques, par exemple le mythe de la peine, du péché originel, enfin, des choses qui ont été des choses rajoutées pour essayer de faire tenir ensemble des traditions, il faut les déconstruire pour arriver face à justement le Dieu biblique est un Dieu obscur, c'est un Dieu archement. C'est là qu'il y a un abîme. Il faut toucher cet abîme pour comprendre où il va. Il y a un abîme qui est nouveau. Au Moyen-Âge, on avait un Dieu intelligence. Un Dieu qui était capable de faire les synthèses de la foi et de la raison, d'une construction, etc. Mais le texte biblique apparaît avec les traductions dans les langues vernaculaires, et le Dieu biblique, il n'est pas du tout comme ça. Il n'est pas immuable. Il n'est pas immobile, ce n'est pas un premier moteur immobile. C'est un Dieu qui change, c'est un Dieu capricieux, c'est un Dieu qui veut se venger, puis après qui se repent, etc. Il change tout le temps. Vous voyez, et du coup, en philosophie aussi, on va avoir un sujet volonté qui va apparaître. Le thème de la volonté apparaît comme étant un thème, non pas le thème au sens la volonté dans une sorte de coïncidence à la raison,
mais la volonté comme caprice.
Et je dirais, ce n'est plus le logos, c'est la conversation. Il y a de la conversation, il y a de la dispute éventuellement.
Et c'est ça qu'on voit très très bien chez Bayle, il y a de la dispute,
il y a du... On est deux, on n'est jamais tout seul. On fait avec d'autres.
Et donc, et si Dieu était capricieux, s'il était arbitraire,
et... Voilà, là on est dans un abîme moral. Et c'est justement face à ce risque de retour à l'informe morale, parce que si est bon ce que Dieu veut, alors que Dieu ne veut pas le bon, par exemple, pourquoi pas ? Il peut être capricieux, il peut ne pas vouloir le bon. Regardez dans le texte biblique, il y a un article dans le dictionnaire qui porte sur David, le personnage de David, c'est un personnage merveilleux, aimé de Dieu, mais il est épouvantable, David. Il n'est absolument pas moral. Il est horrible. Bon. Et donc voilà, Dieu peut préférer quelqu'un d'horrible comme David à quelqu'un de plus correct, de plus droit, de plus etc. Voilà, il y a un énorme problème.
Donc, est-ce que les choses qui ne sont justes que parce que Dieu les commande, ça c'est les lois cérémonielles de l'Ancien Testament données au Sinaï, et puis qui peuvent changer, parce que justement, d'après Calvin, tout ça peut changer. Et puis, et les choses que Dieu commande parce que de leur nature elles sont justes.
Et ça, c'est aimer son prochain comme soi-même. Ça, c'est pas de nature au sens naturel.
C'est de nature dans le sens que j'ai tout à l'heure. L'homme est autant obligé de se conformer aux idées de la droite raison dans les actes de sa volonté que de suivre des règles de la logique dans les actes de son entendement. Hein, c'est l'idée qu'on peut sortir du chaos moral parce que nous cherchons quelque chose qui est valable dans la réciprocité, qui est valable dans la réciprocité universalisable. Hein, c'est ça, la nature. Une loi qui est de par nature juste, c'est une loi qui est universalisable parce qu'elle est elle est réciprocable. Les autres peuvent l'utiliser. Si moi je peux aimer mon prochain comme moi-même, l'autre peut le prendre dans l'autre sens, ça marche, si vous voulez. Alors qu'il y a des lois qui ne peuvent pas être universalisables si facilement. Voilà en gros le jusqu'où va Bayle dans son doute et dans sa critique. Je termine juste par pour vous mettre ensemble deux bouts. Il y a un texte que j'adore et qui va tout à fait dans le sens de la République des lettres. Il dit « La République des lettres est un État extrêmement libre. On y reconnaît que l'empire de la vérité et de la raison. Et sous leurs auspices, on fait la guerre innocemment à qui que ce soit. Les amis s'y doivent tenir en garde contre leurs amis, les pères contre leurs enfants, les beaux-pères contre leurs gendres. Les lois de la société n'ont pas fait de préjudice à l'indépendance de l'État de nature par rapport à l'erreur et à l'ignorance. » Tous les particuliers ont à cet égard le droit du glaive et ne peuvent exercer sans demander la permission à ceux qui gouvernent. Le droit du glaive qui est le droit de la parole, le droit de la dispute. On peut toujours se disputer. On est entièrement libre de se disputer en père
et enfants, entre frères et sœurs, entre mari et mère, en paroisse, en église, la dispute. La République des lettres, c'est ça. Je dirais même presque, c'est presque l'utopie de son église, une église entièrement libre, où on peut se disputer sans... C'est une église, en fait, c'est Milton. Cette conception presque maritime dans laquelle il n'y a plus de... Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières. C'est là. Mais de l'autre côté, ça peut tourner au cauchemar, cette liberté, parce que justement la religion, c'est encore une citation de Bayle, met l'épée à la main du souverain contre ses sujets, une partie de ses sujets contre le reste de l'État, elle sème la division dans les familles, arme le frère contre le frère, le mari contre la femme, et répand un nuage si épais dans les esprits qu'on regarde comme de bonnes actions, ce qui est le plus contraire aux idées de l'équité. Puisqu'elles sont faites pour le service de Dieu, elles ne peuvent être que mauvaises. Elles ne peuvent être mauvaises, je veux dire. Parce que c'est pour le service de Dieu, ça ne peut pas être mauvais. Voilà. Donc, vous voyez, il dit la même chose, d'une certaine manière, de la religion et de la République des lettres. Et c'est là qu'il faut bien introduire un deuxième discours, qui est un discours de, non plus de liberté de pensée, de liberté totale de pensée religieuse, de tolérance, hein, qui est justement le problème de l'ordre politique. Et l'ordre politique ne peut s'appuyer que sur des religions qui ont accepté d'une certaine manière l'argument du moindre mal, de la tolérance mutuelle, civile, hein, dans lesquelles on accepte qu'on a tous une certaine étroitesse, qu'on est tous nés quelque part. On est tous des provinciaux. On a tous des doctrines sucées avec le lait de l'enfance et qui font qu'on a encore des mœurs, on a encore des bizarreries. Personne n'est de plein pied dans l'universel, si je peux dire. On peut faire un travail pour voir ce qu'il peut y avoir d'universalisable, mais nous, on est embringué dans... Donc il y a toujours un point d'enfance, un point de... Il écrit par exemple, « S'il arrivait que les chrétiens et les turcs qui vivent dans les mêmes villes fissent échange de leurs enfants à la mamelle, ceux des chrétiens seraient tous mahométans et tous ceux des turcs seraient chrétiens. » Ça dépend de là où on est. Hein. Ricoeur avait cette formule extraordinaire, parlant de sa foi protestante, de dire c'est un hasard transformé en destin par un choix continu. Mais il y a du hasard là-dedans. Du hasard de naissance ou du hasard de rencontre. C'est pas forcément de naissance, ça peut être de rencontre. Voilà, soudain, je suis chez moi. C'était pas chez moi, mais là, je suis chez moi. Mais ça veut dire aussi qu'il y a un ailleurs que chez moi. Il y en a d'autres qui sont chez eux ailleurs, là où c'est pas chez moi. Et donc, on a tous un point d'enfance, un point de finitude, de limitation, un point d'étroitesse. Nous sommes tous étroits. L'intérêt de Bayle, c'est que c'est une pensée de l'élargissement sur la base d'une pensée de la reconnaissance de nos étroitesses. Et ça, c'est un point extrêmement important de l'enquête de Bayle. C'est-à-dire, en quelque part, il faut être un peu sceptique par rapport à notre dogmatisme, mais il faut être un petit peu dogmatique au sens où tout le monde a encore des dogmes. On n'a jamais fini de déconstruire nos dogmes. Quelque part, on vient toujours d'une enfance, quelque part. On a toujours des points d'enfance. J'ai laissé une dernière petite question, excuse-moi, un tout petit coup d'éperon pour terminer. Oui. La question des pseudonymes de Bayle. Alors c'est curieux parce que certains ont dit, justement ceux qui pensent que Bayle était un athée qui se cachait, certains ont dit, c'est classique, c'est la thèse de Léo Strauss, c'est qu'en fait, comme les maranes, il cache sa vraie pensée, et donc il la crypte, donc pour l'extérieur, et sa vraie pensée, elle est cryptée. Alors à ce moment-là, on se demande pourquoi les dictionnaires, pourquoi il y a des œuvres cryptées, d'autres qui ne sont pas cryptées. Ensuite, c'est un peu plus compliqué que ça, puisque... Par exemple, le commentaire philosophique, qui est un livre extrêmement polémique et extrêmement dangereux pour lui, vous savez comment il a, si on trouve son identité, vous savez comment il l'a signé? Il a signé du nom de Jean Fox. Et Jean Fox, c'est très très proche de John Fox, qui était le fondateur des Quakers. Vous voyez, donc il augmente le risque. Le Quaker qui n'était même pas supporté dans l'Angleterre de la Révolution anglaise de Cromwell. Vous voyez, bon. Donc c'était des dissidents. Il avait un ami Quaker dans le port de Rotterdam qui s'appelait Benjamin Furler, qui avait un bar qui s'appelait La Lanterne. Et bah, il aimait aller dans ce bar où j'imagine qu'il rencontrait d'autres pirates et d'autres dissidents. Voilà. Dans le port de Rotterdam, je sais pas. J'aimerais faire un film là-dessus. Donc là, ça marche pas du tout la thèse de la... Non, il avait pas peur. Non seulement il n'avait pas peur, on l'attaque. Le consistoire l'attaque. Qu'est-ce qu'il fait? Il répète ce qu'il dit, il y a encore plus. Il dit, voilà, et en plus, il dit, et c'est Calvin lui-même qui l'a dit. Vous voyez, donc, il s'entête, il y tient à ses idées. Il dit que, c'est, que son interprétation est la bonne interprétation de Calvin. Et que c'est les autres qui se trompent. Vous voyez, donc, il est pas du tout, il se cache pas du tout. Il y va à franco. Hein, bon. Donc, moi, ce que je pense plutôt, c'est que Bayle portait en lui plusieurs subjectivités. Il était profondément divisé en lui-même. Et qu'il était capable de tenir plusieurs discours très loin. Et justement, chaque fois qu'il prend un pseudonyme, un peu comme Kierkegaard à certains égards, il adopte ce point de vue et il va le plus loin possible dans ses discours. De la même manière que dans son dictionnaire, pour chaque article, il prend l'auteur et il le mène Milton. Il devrait détester Milton. Milton, c'est celui qui a justifié en Angleterre qu'on coupe la tête du roi. Un protestant français, sujet de Louis XIV, du début du règne de Louis XIV, ne peut que détester Milton. Eh bien, son article sur Milton est plein d'éloges de Milton. Vous voyez ? Donc il prend ceux qu'il devrait détester, ou ce que tout le monde déteste, et il les ronde. Il épouse les discours successifs des uns et des autres. Je dirais que voilà, c'est un peu son génie. Et du coup, c'est aussi un peu sa faiblesse, parce que du coup, après sa mort, on ne savait plus qui était Bayle. Où est la pensée de Bayle ? Bayle, ce n'est pas un philosophe. C'est pas un philosophe, c'est quelqu'un, on ne sait pas ce qu'il pense, on ne sait pas ce qu'il dit, c'est des personnages successifs, etc. C'est une pensée dispersée. Bien moi, je dirais qu'il y a plus de justesse dans cette pensée dispersée que dans les grands systèmes métaphysiques de son époque. Voilà, merci. Merci. Excusez-moi, j'étais long. Hein,
non, c'est parfait. Est-ce que vous avez donc des questions ?
Moi, j'en ai une sur la façon un petit peu polémique d'opposer. Jurieu à Bayle. Bon, et cette adhésion qui, moi, me gêne profondément chez Bayle, enfin, historiquement, du soutien à la monarchie absolue de droit divin, Jurieu parle de la nation et de la souveraineté. Jurieu, il ouvre sur Rousseau, il ouvre sur la modernité. Bayle, il ouvre sur rien. Il est sur le conservatisme, où il défend la monarchie absolue de droit divin. Il la défend. Alors que Jurieu, non. Jurieu, quelque part, même si son côté polémique, prophétique, enfin puis d'ailleurs, Jurieu, je dirais, il était entre guillemets soumis, hein, il s'est déclaré de l'Église, pour son soutien au Camisard. Jurieu a soutenu le Camisard. Mais j'ai l'impression qu'il est toujours un petit peu au-dessus de la BD. Donc il essaye d'être en même temps, lui aussi. De toujours défendre le pour et le contre, de trouver une espèce de juste milieu. Il y a un côté insupportable qui me dérange profondément chez Jurieu, mais il y a une cohérence, et je trouve personnellement, une modernité chez Jurieu dans cette idée de la souveraineté nationale qu'il n'y a pas chez Bayle qui défend sa monarchie absolue.
Alors, moi je pense que Bayle ne soutient pas la monarchie absolue. Il le soutient dans certains textes, mais ce n'est pas sa thèse de. Parce qu'il dit aussi le contraire.
Ah oui, mais c'est ça
qu'il dit. Le commentaire philosophique, il va très très loin dans le démantèlement de la prétention à la monarchie absolue qui touche tous les domaines. Donc c'est une monarchie pas du tout absolue, c'est une monarchie extrêmement limitée, qui est le modèle politique. Non, mais ça non. Non, je ne dirais pas ça. Non. Je ne dirais pas ça parce que ce n'est pas chez Calvin. C'est le langage de l'époque, mais ce n'est pas chez Calvin. Ce n'est pas théologique. Ce n'est pas le droit divin au sens catholique. Ça n'a rien à voir. Et Bayle, à mon avis, est beaucoup plus radical que Jurieu. Je vais vous citer ce que dit Rousseau. Je crois qu'en développant, sous ce point de vue, les faits historiques, c'est dans ce qu'il appelle réunir les deux têtes de l'aigle. On réfuterait aisément les sentiments opposés de Bayle et de Warburton, dont l'un prétend que nulle religion n'est utile en politique, et dont l'autre soutient au contraire que le christianisme en est le plus ferme appui. On prouverait au premier que jamais État ne fut fondé que la religion ne lui servit de base, ça c'est Rousseau qui dit ça, hein, et au second que la religion chrétienne est au fond plus nuisible qu'utile à la forte constitution de l'État. Vous voyez, je pense que Bayle, il va plus loin dans le démantèlement du théologico-politique que Jurieu, il va beaucoup plus loin.
Pas sur la souveraineté.
Ah ben oui, mais la souveraineté nationale, après c'est une impasse. C'est une grande impasse, c'est le nationalisme. C'est la religion de la nation. C'est une impasse, une grave impasse politique. Je pense que Bayle est beaucoup plus intéressant. La destinée de la pensée de Bayle est plus intéressante.
Pour moi, la souveraineté nationale, c'est pas ça. Hein.
Bah oui, mais...
C'est la nation souveraine.
Oui, ben, il y a une dimension religieuse dedans. Vous voyez, Rousseau. Une dimension profondément religieuse.
Oui,
et Bayle démantèle ça.
Oui, mais normalement, on va vers la théologie. Dans prendre la dimension religieuse de la société nationale, la nation souveraine, bien sûr qu'il y a une dimension. Alors je dirais que c'est pas religieux.
Ah ben religieuse, pour Rousseau c'est religieux. Et c'est là que je trouve que Bayle est vraiment très intéressant parce que justement il déconstruit.
Alors si c'est pas la, si c'est pas la nation qui est souveraine, qui est souveraine.
Ah ben la souveraineté, elle est limitée. Il y a des, c'est compliqué. Il y a pas une souveraineté absolue. Il y a pas de tiers absolu. C'est très important. C'est très important pour penser à la démocratie. C'est pour ça que. Oui, ben ce serait un point de vue pour la. Ce serait pas un point de vue.
Il y a Philippe.
Non, c'est-à-dire que je suis pas historien, il y a des gens plus compétents, mais je crois savoir que marche sur les œufs. Que quand on entend la doctrine de la monarchie absolue de droit divin, tout le monde croit que c'est une doctrine catholique. Pas du tout, c'est une doctrine moderne. Donc je crois Henri IV a été le premier promoteur, et théologiens catholiques ont résisté de toute leur force contre cette doctrine. C'est-à-dire c'est une manière de dire qu'au fond, le magistrat civil s'est imposé au-dessus des confessions qui parle beaucoup de Dieu et d'amour, mais qui ont voulu beaucoup de sang.
C'est pas vrai, c'est
Dieu. Et donc la doctrine absolue, la monarchie absolue de droit divin, c'est une doctrine plutôt moderne qui vise à conforter ce qui sera une tolérance, pas du tout au sens actuel, mais la tolérance au sens de l'édit de Nantes. Donc c'est pas du tout une doctrine catholique, c'est une doctrine moderne, c'est pas du tout religieuse, si je vous dis. C'est une onction que la monarchie se donne à elle-même.
Ça a été interprété.
Et possède des théologiens, justement. Et ça, c'est un point historique. Moi, c'est ça.
Ça a été quand même contredit par l'histoire. Justement, les Stuarts qui étaient pour la monarchie de droit divin et qui ont été finalement battus, parce qu'il y a eu battus en. Des batailles dans le cœur pendant jusqu'au milieu du XVIIIe siècle pour justement conforter la monarchie parlementaire. Donc il y a bien une opposition entre monarchie de droit divin, d'ailleurs Louis XIV recevant les Stuarts à Saint-Germain, et ce qui allait devenir le prémisse de la démocratie parlementaire.
Moi, ce que je voudrais dire par rapport à Bayle, qui me semble très important pour comprendre la sensibilité de Bayle. Mais vous avez tout à fait raison, ceci dit, de prendre la défense de Jurieu. Jurieu est un personnage très intéressant, que j'ai beaucoup caricaturé là.
Que j'aime bien, mais qui me dérange.
Comment ?
Que j'aime bien, mais qui me
dérange. Oui, non, mais il est très. Non, mais en même temps. Et d'ailleurs, Elisabeth Labrousse, qui a consacré sa vie à l'œuvre de Bayle, a fait quelques écrits sur Jurieu extrêmement passionnants et élogieux de Jurieu. C'était un vrai adversaire. Ils ont été très amis, ils ont été très adversaires. C'est aussi très politique, c'est aussi lié. Mais pour bien comprendre, et là je pense qu'ils auraient été tout à fait d'accord l'un et l'autre, Jurieu, enfin non, Jurieu n'aurait pas pu être d'accord avec ça, mais quelque part, sur le fond, il y a un fond commun, c'est lorsque Frédéric II, le roi de Prusse, en correspondance avec Voltaire, c'est là qu'il y a du catholicisme, je vais expliquer. Donc Frédéric II a lu très jeune le dictionnaire de Bayle, et il écrit à Voltaire, on dit que le peuple a besoin du frein de la religion pour être contenu. Je vous assure que ce n'est pas mon sentiment. Au contraire, l'expérience me range entièrement dans l'opinion de Bayle. Une société ne saurait subsister sans loi, mais elle pourrait subsister sans religion. Voilà ce que dit Frédéric II, le roi de Prusse. Hein, bon. Pourquoi ? Il faut comprendre ce qui est derrière. L'idée, c'est qu'il y a toute une manière de penser, pas seulement catholique, hein, mais qui est vraiment dominante, qui est la religion, c'est bon pour le peuple. Nous, les éclairés, on n'y croit pas. Mais c'est utile pour le peuple. C'est un appareil idéologique d'État. On trouvera ça même chez Marx, d'une certaine manière. Ça, c'est extrêmement grave. Et ça, c'est ce contre quoi Bayle se révolte. Et là, il est quelque part très protestant, au sens très basique, si je peux dire. Hein. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre par rapport à Rousseau, par rapport à d'autres débats. Et je pense qu'apparemment, à cette époque-là, je pense qu'il y a plein de gens qui pensent très sincèrement que s'il n'y a pas la religion, c'est le chaos. Et Bayle va... C'est quelqu'un qui accepte de regarder ce chaos, en quelque sorte. C'est ça qui me semble intéressant. C'est pour ça que j'ai voulu partir sur ce moment abyssal, on va dire, dans lequel on ne va pas s'appuyer sur une théologie rationnelle, on ne va pas s'appuyer sur ça. On est face à un vrai chaos, à un Dieu qui nous conduit au bord du chaos. Et alors, qu'est-ce qu'on fait à partir de ça ? Comment, sur ce chaos lui-même, sur cette possibilité perpétuelle de guerre, comment construire un ordre politique possible ? Quand même possible.
Les enfants en même temps.
Il n'y a pas de en même temps. C'est pas du tout du en même temps au sens de Macron. Excusez-moi. Là, vous, je vois votre allusion, mais non. C'est
pas nécessairement.
Non, c'est.
Il y a quand même une impasse. Il y a quand même une impasse.
Je vais vous dire.
Il y a quand même une impasse parce que c'est finalement sur rien.
Si.
Et vous le disiez en début de votre présentation. Mm. Bon, il est dans une errance et dans un abîme de ténèbres. Donc finalement, il ne sort pas. Il ne sort pas.
Mais heureusement.
De l'errance, il
mais pas, il a raison. C'est là que. Je trouve qu'il a tout à fait raison.
Non, mais c'est peut-être ça qui est intéressant dans Pierre Bell, c'est qu'il autorise à penser, il autorise à se poser des questions, il autorise à remettre en cause. Et là, je crois qu'il y a quand même une leçon, peut-être pas de pensée philosophique, mais de méthode philosophique, non plus que.
Non ce qui est lumière, c'est le côté pluralité des points de vue et correction mutuelle. Il n'y a pas de point de vue solaire, il n'y a pas de tir absolu, il n'y a pas de point de vue solaire. C'est là, en sens là, qu'il n'est plus du tout cartésien. Ça, c'est très lumière. Mais c'est vrai qu'il y a cette dimension d'enténèbrement qui est très forte et qui, à mon avis, est très actuelle. Parce que je pense qu'il faut que. Lire Baël, c'est nous accoutumer à voir aussi un petit peu. Voir un peu dans les ténèbres, faire les différences, ne pas nous mettre dans le même sac toutes les ténèbres, si je peux dire. Appréhendre à faire les différences. Il y a du mal, il y a du pire. On ne peut pas tout mettre dans le même sac. Il n'y a pas un seul mal. Il n'y a pas une seule figure du mal.
Alors, il discutait avec Jurieu, mais il discutait avec qui d'autre, Pierre Bayle? Avec Spinoza? Avec,
alors, c'est Leibniz, son grand Leibniz, débat avec Leibniz. Spinoza, il est
parce qu'ils étaient voisins un petit peu.
Oui, non, mais Spinoza précède un petit peu. Alors, c'est justement à Bayle qu'on doit, en gros, Bayle a joué un très grand rôle dans la réception de tous les auteurs de l'époque, Malebranche, Spinoza, etc. Bayle était plus connu. Voltaire disait, Bayle est plus grand que tous. Je veux le consulter, assez sage, assez grand pour être sans système, il les a tous détruits et se combat lui-même. Phrase de petit épigramme de Voltaire. Pour le début du XVIIIe siècle, Bayle était hyper important, hyper connu. Mais c'est vrai qu'il n'a rien laissé apparemment. Et moi, je pense que c'est parce que nous cherchons la philosophie, et c'est un peu ce que font ceux qui font une lecture purement athée de votre main, Christophe. Juste, attendez, je termine.
Non, il faut laisser terminer, Olivier, attendez, il était en train de terminer.
Excusez-moi.
J'ai oublié. Allez-y.
Merci. Juste le dire que c'est remarquable de nous entendre. Et cet homme, Bayle, était vraiment très en avance sur son temps, 150 ans en avance sur son temps, parce que je pense que s'il avait connu notre temps aujourd'hui, comme vous l'avez dit actuellement, la loi de séparation des églises et de l'État qui a été constitué par des protestants, des gens athées, probablement certains catholiques et d'autres, où justement, regardez en France, nous sommes dans un pays où vous avez plusieurs religions, vous avez bien sûr toutes sortes de courants de pensée, et nous ne pouvons vivre ensemble, dirait Bayle, que grâce à cela et pouvoir penser et construire l'avenir. Voilà. Mm-hmm. Je voulais juste dire ça.
Mm-hmm. Merci.
Je pense que la séparation des églises et de l'État est très adaptée. Mm-hmm.
Laurent?
Je voulais être rassuré, mais je pense qu'on n'a pas besoin de la démythologisation, entmythologisero, au sens bullmanien, tu as raison. C'est une dérationalisation. En France, en général, on confond les choses.
Ouais, c'est
la démythisation qui est une rationalisation.
C'est ça.
C'est pas du tout la même chose, même si dans un sens, pour Bultmann, il faut pratiquer les deux.
Merci.
Non,
faut pas t'inquiéter les deux. Je voulais revenir sur ce débat de philosophie politique qui est vraiment très passionnant. Parce qu'on dit il ne laisse rien. Alors, je voulais juste dire une chose, c'est que quand même, pour Bayle, ce qui serait bon, ce qui irait dans le sens de ses voeux, c'est un peuple qui serait, par exemple, majoritairement catholique et qui laisserait un roi protestant. Ou un peuple majoritairement protestant qui aurait laissé un roi catholique, ce qui aurait dû se passer en Angleterre. Ou c'est un roi catholique qui protège des minorités qui ne sont pas dans un pays catholique majoritairement, qui protège des minorités qui ne sont pas de sa religion. Voilà, je dirais, l'état du problème qui est son problème. Il ne répond pas, bien sûr,
à des problèmes, je dirais, de la démocratie représentative d'aujourd'hui. Mais ce problème-là, c'est un problème plus fondamental qu'il n'y paraît, parce que c'est aussi l'articulation du théologique et du politique. Or, on a cru quand même un peu rapidement liquider le théologique en disant « voilà, ça y est, c'est fini le théologico-politique, le politique est à soi seul une rationalité suffisante ». C'est pour ça que moi je suis toujours intéressé d'être en débat avec des gens comme Régis Debré qui, c'est le penseur qu'il est, il a ses faiblesses, il a ses qualités, mais c'est quelqu'un qui a toujours été sensible à cause de son rapport au marxisme probablement, à la dimension proprement, à ce qu'il y a de sacré dans le politique lui-même. Et je pense que ça, il ne faut pas l'oublier, et qu'il y a un travail qui est interminable. Et c'est pour ça que Bayle est utile pour nous. Voilà, c'est comme ça que je vois la question.
Oui, justement, dans ce que vous dites, à la fin de votre livre, d'ailleurs, vous employez l'expression d'une certaine conception de la laïcité comme étant une quasi-religion qui met à part les religions qui est dans le sacré. Oui. On le voit bien, d'ailleurs, dans les débats actuels, il y en a qui disent, qui accusent certains que la conception de la laïcité pour en faire le substitut absolu qui domine et qui écrase et qui élimine les autres religions, ce qui à mon avis serait pernicieux. Mais ce qui prouve que le débat n'est pas clos.
Non, c'est pas clos. Oui.
Autre question, est-ce que la conscience pour vous, chez Bayle, s'apparenterait à l'instinct divin, ou à la conscience instinct divin du Icar Savoyard?
Par certains côtés, elle le prépare, en effet. Il y a des pages, il y a des passages de Bayle où on a le sentiment que c'est ça, une sorte de voix de la conscience, comme ça. En même temps, elle est plus... je pense qu'elle est brisée, elle est plus brisée chez Bayle. Parce que, quelque part, pour Bayle, la conscience, je disais tout à l'heure, c'est quelque chose qui ne m'appartient pas. Donc, il y a... d'une certaine manière, il y a chez Rousseau... on le voit bien dans les confessions, il y a un soi qui existe, un soi qui est important. Le soi de Bayle n'existe pas, c'est un soi complètement, il essaye, mais il cherche pas. Je dirais, il y a chez Bayle quelque chose que moi j'apprécie beaucoup, c'est ce que j'appelle l'insouci de soi. Un insouci de soi qui est très profond chez Bayle, et qui est très calviniste là aussi. Il va être jeté à la fosse publique, etc. Il se soucie absolument pas. On peut dire que Rousseau ne se souciait pas de la gloire, mais Bayle, vraiment, il ne se soucie vraiment pas. C'est pas du tout son problème. Il cherche que il donne des fouets pour se faire battre. Il est très curieux par rapport à ça. Et donc, il y a un côté voilà, dans lequel c'est l'affaire de Dieu, ça ne m'appartient pas, ma cohérence ne m'appartient pas. Et lui, du coup, il est un peu dispersé. Et alors, en même temps, c'est vrai que la raison théorique s'arrête là où, pour reprendre un langage un peu kantien, là où la raison pratique continue. Il y a un sentiment moral qui continue à parler là où la raison théorique est complètement perdue dans son labyrinthe. Et donc, ça veut bien dire qu'il y a une sorte de la conscience est feuilletée, et qu'il y a donc dans la conscience des parties plus profondes, et que la conscience morale est une partie profonde de la conscience, une partie plus profonde. Mais ce n'est pas une conscience... ce n'est pas la voix de la nature. Hein. C'est pour ça qu'il est très, très aiguisé sur l'idée que, quand je crois que je suis sincère, peut-être que je suis profondément hypocrite et que je peux faire beaucoup de mal au nom de ma sincérité. Ça, il a une conscience aiguë de ça. Je ne suis pas sûr que Rousseau... Si, Rousseau aussi, en fait. C'est très intéressant. Cette histoire de la sincérité, d'ailleurs, Claude Romano, le philosophe Claude Romano, est en train de préparer un livre là-dessus. Je ne sais pas s'il l'a publié. L'an dernier, je savais qu'il était en train de travailler à ça. Justement, cette question de la sincérité, de l'histoire, comment se creuse le sillon de la sincérité, c'est vraiment... Je pense que Bayle est une petite étape sur cette histoire.
Merci beaucoup, je pense, à Olivier Bayle pour cette soirée. Alors, vous trouvez à la sortie donc ces bouquins. Il y a le bouquin sur Pierre Bayle, qui est vraiment super. Et il y en a un autre, sur Paul Ricoeur, voilà. Et la prochaine rencontre, c'est donc sur Auguste Comte avec Philippe Godin, c'est le 7 novembre. Les autres rencontres, c'est plutôt le mardi, en fait, un mardi par mois. Mais demain, comme il y a un mardi important sur la réforme à Paris, donc on a fait place en mettant cette rencontre un lundi. Donc merci beaucoup, bon retour chez vous.